Bien.
On peut se battre tout à fait sur ce point. Non, je dois dire que le problème de la survie de l'âme me paraît une grande abstraction. Je pense que dans le judaïsme, l'essentiel, c'est d'abord l'obéissance aux mitzvot et non pas le salut de l'âme qui vient quasi automatiquement par la suite. Sur le thème de la connaissance ou de la reconnaissance ou méconnaissance du paganisme, il m'a semblé qu'une question importante qui pouvait se poser à ce propos était de savoir de quelle manière le judaïsme a-t-il méconnu ou reconnu le paganisme ancien. Et parce qu'il n'y a pas de connaissance ou de méconnaissance gratuite, elle est toujours intéressée. Elle est toujours intéressée, je me demandais si on ne pouvait pas fixer l'enquête sur un des thèmes majeurs de l'histoire du judaïsme, qui est le thème du danger. Le danger est le grand cauchemar du judaïsme dans l'Occident, qui était la conversion forcée au christianisme. Alors je me demandais s'il était possible de se poser cette même question par rapport au paganisme. Représentait-il pour les judaïsmes un danger semblable, comparable? Et comme notre président venait de le dire tout à l'heure, nous travaillons sur des registres différents, chacun dans les limites de sa compétence. Donc, je me suis posé cette question dans mon domaine très limité, qui est celui des contacts lourds, des conséquences pour le monde dans lequel nous vivons, contacts entre le judaïsme et le monde grec, le monde hellénistique. Et le problème me paraît de taille. Le problème me paraît de taille parce que ce qui est en cause ici, c'est une constante majeure de la destinée juive et qui, dont les termes extrêmes sont l'universalisme enseigné par le prophète et le maintien de l'identité juive. Et le moment se prêtait pendant les fêtes de Hanouka pour revenir à un souvenir que la mémoire juive a fixé comme la victoire de la spiritualité sur un danger. Un danger, quel danger? Le souvenir de la victoire s'est perpétué sous une forme spiritualisée, le souvenir du danger lui-même est resté quelque peu obscurci. Et c'est là-dessus que l'historien peut apporter sa contribution avec ses moyens de travail, avec des documents, avec une analyse historique, et il peut fortifier la mémoire juive, il peut l'aider à se préciser sur des points qui restent pour elle-même parfois un peu obscurs ou un peu hésitants. Un peu hésitant, je prends par exemple un numéro de la Tribune juive qui est un journal très recommandable, je suis abonné moi-même, vous savez, tout le monde ne partage pas cette opinion. Bon, alors ce n'est pas un avis autorisé.
Pour de toutes autres raisons.
Pour d'autres raisons, voilà. Alors très bien. Alors je vois ici le triomphe de la spiritualité, je viens de le dire, je souscris, nous souscrivons tous, au temps où Antiochus Épiphane voulait imposer aux Juifs par la force une fin définitive. C'est précisément ce souvenir d'un roi fou qui cherche à convertir les Juifs au paganisme que je me suis employé à préciser avec les lumières de l'histoire. Et mon ami, le professeur Yoyot, vient de m'apporter aujourd'hui encore un argument de taille. Il a parlé, vous l'avez bien entendu, de l'absence dans la logique du paganisme, l'absence de toute possibilité de conversion forcée, puisque les divinités païennes sont convertibles par elles-mêmes. Une interprétation est possible de part et d'autre pour les Égyptiens ou pour les Grecs qui reconnaissent dans les dieux des autres leur propre divinité. On reconnaît la divinité de l'autre, on essaie d'établir une sorte d'identité, une sorte d'équivalence. Il ne s'agit pas de convertir quiconque au paganisme, c'est une notion anachronique que nous transportons dans le passé à partir de l'expérience qui est celle du vécu juif dans le monde
de la chrétienté, éventuellement dans le monde de l'islam, et qui aboutit souvent à des distorsions. Et ce que je vais essayer de vous montrer ici l'autre jour, c'est qu'en fait, derrière ce roi fou, qui en même temps est un homme de très grande culture, épicurien, à qui sa religion philosophique interdit tout acte de violence, derrière ce roi, il y a une surenchère juive. C'est-à-dire, il y a une tentative de réforme qui vient de grand prêtre Sadducéen, une rupture d'équilibre entre ces deux termes, universalisme et maintien de l'identité juive. Donc, une tentative de réforme, on n'introduit pas la statue de Zeus dans les temples de Jérusalem, mais on donne au dieu des juifs, au dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, qui reste toujours le dieu qui est vénéré dans ces temples, d'autres visages, des visages compréhensibles pour les autres. Il y a donc une ouverture qui est périlleuse pour le judaïsme lui-même, et la réaction qui va se déclencher va amener une victoire du judaïsme, une victoire juive sur une perversion qui s'était installée à un moment à l'intérieur du judaïsme lui-même. Je crois qu'il y a là un moment dramatique, un moment pathétique de l'histoire juive, et qui à garder pour nous toujours une valeur d'avertissement. Je tenais à apporter ces quelques précisions parce que j'ai eu un président qui en même temps était mon discutant, j'ai été donc gâté, et finalement le public n'a pas pu poser les questions qui se présentaient peut-être mercredi dernier et auxquelles je serais tout à fait heureux de répondre aujourd'hui.
Bien que je ne sois pas aujourd'hui le discutant étant président, j'ai une petite remarque aussi sous forme de question, puisque nous prenons grâce à vous l'exemple grec. Voilà. Et je voudrais me référer là à un enseignement qui a été extrêmement élaboré par un des commentateurs contemporains du Maharal qui vient à peine de décéder, le Rav Yitzhak Kuttner. Et dans son livre Le Paralitra, qui traite de ce problème, et qui a fait l'analyse suivante. Je vais paraphraser, je ne vais pas employer les termes que lui emploie dans le commentaire rabbinique, pour essayer de nous poser la question au niveau où vous l'avez formulé. J'étais très frappé de cela, parce qu'en particulier, le Talmud nous laisse le témoignage de, non pas de controverse, j'allais dire presque de symposium, enfin de comment dit-on ça ? De colloque. Entre sages hébreux, judéens à l'époque, et sages grecs. Le Rav Kuttner met en évidence ceci, c'est que la tradition hébraïque va retenir et va s'enrichir d'une dimension de la culture grecque extrêmement importante, mais va radicalement refuser et rejeter l'autre dimension. J'emploie des termes très modernes pour dire de quoi parlent ces commentaires. C'est d'une part la logique et d'autre part la phénoménologie. C'est-à-dire, autant la tradition hébraïque va, je ne veux pas dire s'intégrer, ce serait de la récupération, mais recueillir et, disons, a posteriori, justifier ainsi sa relation au monde extérieur au temps des Grecs, la logique grecque, autant elle va, si j'ose dire, avec horreur, repousser le style et la forme que le grec donne à son expérience culturelle au niveau de la phénoménologie. Et c'est pourquoi on pourrait peut-être, corollairement à ce que vous venez de dire, expliquer que lorsqu'on a entendu en Judée que peut-être des hellénistes, des juifs hellénistes, des judéens hellénistes, mais aussi peut-être des grecs complaisants, voulaient donner un style phénoménologique à l'expression de la piété juive en empruntant les images à la phénoménologie grecque, alors il faut comprendre que le judéen, la conscience judéenne, y a entendu, y a vu purement et simplement projeter l'idole grecque en tant que telle dans le temple des Hébreux et donc tentation de conversion forcée. Je veux dire, dans les faits, pour la mémoire traditionnelle, ça risque de revenir au même. Et c'est extrêmement important de voir que nous sommes au fond peut-être aussi dans le temps contemporain aux prises avec ce même problème en tant que juif. C'est-à-dire, où, à quel niveau se trouverait ce qui au temps des Grecs était cette logique dont je parle. Au temps des Romains peut-être, il s'agirait d'une certaine science du juridisme, d'une certaine science de la loi, non pas morale, mais de la loi juridique que nous recevons de Rabbi Meir, descendant de grec converti au judaïsme, dit un midrash important, par exemple. Et autant des Perses, c'était sans doute autre chose. Autant des Égyptiens, ce serait élucidé. Mais que dans tous les cas, il y a un refus absolu de ce que j'ai appelé tout à l'heure, j'espère que c'est suffisamment clair, le style phénoménologique, qui lui apparaissait comme païen dans sa connotation négative. Qu'en est-il aujourd'hui? De quoi s'agirait-il? Ce serait toute une élaboration.
Et vous venez en même temps, mon cher président, vous venez peut-être de formuler l'idée d'un prochain colloque. Loi juive et loi des autres. De tous les peuples de l'Antiquité, les Juifs et les Romains présentent ceci de commun, qu'ils ont été de grands législateurs et de grands juristes. Ce serait peut-être l'objet d'une réflexion en commun un jour, ici même au Centre Rachid.
C'est noté. Et monsieur d'abord, et puis juste.
Monsieur d'abord.
Très bien.
Nous avons parlé des relations entre le judaïsme et les cultures païennes. Le judaïsme est un élément important, c'est le territoire, c'est l'État d'Israël. Je veux savoir est-ce que cet élément-là joue un rôle dans ces relations entre les cultures païennes et le judaïsme.
Et c'est à qui de répondre? C'est pas un piège, mais... Non, étant donné que je suis israélien, ça gênerait peut-être le débat. Je veux que ce soit...
Hein? Ah ben c'est... Lui aussi. Lui aussi. Alors.
Ça aussi. Écoutez, je crois qu'il y a eu des styles différents de fidélité au territoire hébreu. Dans les temps d'exil, c'était à la longue devenu un style de fidélité mystique et qui prenait surtout une tonalité de piété. Dans des temps plus récents, c'est un débat à un niveau politique strictement. Dans la mesure où cette fidélité est là, eh bien, la relation avec la culture extérieure, en général, le juif a tendance à lui imputer l'indice universaliste ou universel, la culture de l'universel du temps, peut être aménagée positivement, dans la mesure où, de la part du juif, cette fidélité au territoire hébreu est fondée. Dans la mesure où elle est mise en question, il y a un danger supplémentaire de l'assimilation. Enfin, j'entends bien que je vous réponds d'emblée avec mon option israélienne, mais peut-être que ce serait bien que, à la manière de l'analyse d'un juif de diaspora, votre question serait reprise, doivent être reprises.
Peut-être que je n'ai pas compris, mais nous, on a parlé beaucoup de la spiritualité. On a parlé beaucoup de spiritualité. Mais on n'a pas parlé de quelque chose de concret. Il y a une terre, il y a un paysage que cette religion a évolué avec cette
oui.
Terre.
Et alors je m'aperçois que vous me dites gentiment que j'ai au fond beaucoup parlé comme un juif de diaspora. C'est pourquoi vous n'avez pas compris. Mais je vais essayer de reprendre le problème. C'est-à-dire, vous avez conscience que cette notion de la fidélité à la terre des Hébreux, qui a été constituante de l'âme hébraïque, donc juive, à travers les siècles, aujourd'hui doit prendre des connotations politiques parce qu'elle est devenue une réalité politique. Mais politique dans le sens le plus large, pas de idéologie d'un parti, mais du fait de la cité hébraïque. Mais oui, mais ça, je vous comprends. Simplement, comment expliquer cela pour ceux qui n'ont pas déjà cette option ainsi définie, ça risque d'apparaître comme un débat idéologique.
Non, mais il est quand même frappant de voir que le territoire, disons la possession du territoire, n'a pas été l'objet de confrontations historiques majeures à l'époque hellénistique. Ça ressort de l'épisode maccabéen. Sous les Ptolémées, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu une confrontation entre les pouvoirs hellénistiques et les judéens, du fait qu'une puissance étrangère pouvait tenir garnison, lever les impôts, alors que, apparemment, on a raison de parler surtout spiritualité, parce que le territoire n'était qu'un élément de la spiritualité. Le territoire pouvait être dominé par des puissances étrangères sans qu'il y ait conflit, alors qu'une atteinte à l'identité religieuse
était...
Comment ?
Domination.
Domination, mais c'est d'ailleurs parce que nous avons toute une conception, que je dois dire moderne, des rapports entre une nation, une culture et un territoire, et qui n'apparaît pas dans l'Antiquité. Je l'ai dit tout à l'heure, savoir si Moïse était égyptien ou ne l'était pas, on passe un petit peu à côté de la question.
J'ai l'impression d'ailleurs que énormément de registres se court-circuitent à la fois.
Ah oui,
certainement. C'est ça la difficulté. Il y a le temps d'Antiquité, il y a le temps des prophètes hébreux, il y a le temps de la.
Tout y passe.
Oui. Et si vous permettez, enfin, c'est très, très succinct ce que je dois dire là. J'entends dans vos paroles la thèse d'un juif de diaspora, mais ceci pourrait faire.
Non, c'est simplement une constatation sur ce que les sources nous apprennent. Qu'il s'agisse du texte sacré ou de l'archéologie ou de tout ce que l'on vous apprend.
Je veux dire encore qu'il s'agisse de la tradition grecque.
Après,
monsieur Méchon.
Je voudrais juste revenir sur la notion du danger du paganisme par rapport aux juifs, qui réveille d'ailleurs une question bien connue des juifs. Est-ce que c'est bon pour les juifs?
Eh oui.
Alors, est-ce que le paganisme.
Lequel? Quel juif?
Est bon pour les juifs, et est-ce que le paganisme est mauvais pour les juifs? Vous avez dit, M. Ménez, que vous avez posé la question, y avait-il un danger de la part du paganisme? Mais c'est en tout cas un exemple historique très précis que vous avez pris.
Oui.
Et je crois que c'est parfaitement pertinent. Je voudrais déplacer la question parce que ce que je présuppose, c'est autre chose. Je voudrais déplacer la question. Et précisément, cette question a plusieurs lieux. Je voudrais d'abord dire, mais peut-être que j'interviens très tardivement, comme je n'ai pas pu participer à toute cette semaine, parce que ça a déjà été dit, mais je voudrais simplement dire quelque chose d'abord de très très élémentaire, c'est que pour nous, aujourd'hui, en français, puisque ce n'est pas en hébreu que nous parlons ni en égyptien, mais en français, et que les mots français ont des sens français, ils ont une histoire française, et c'est d'abord une histoire latine ici, paganisme est un terme chrétien. Alors, c'est un terme de latin ecclésiastique de la fin de l'Empire romain. Tout ça, ça se trouve dans tous les dictionnaires. Et c'est un terme donné par les chrétiens au culte polythéiste et qui marque très concrètement, très verbalement, l'opposition entre la ville et la campagne, puisque paganisme, ça vient de paganus, le paysan qui habite le pagus, le village. Et ceci, je cite Robert, pour bien montrer que c'est à la portée de tout le monde, c'est dans la langue, parce que le paganisme se maintint plus longtemps dans les campagnes que dans les villes, en face du christianisme. Et l'important, je dirais, c'est en face du christianisme. C'est-à-dire que c'est d'abord un terme polémique, et que paganisme ou païen signifie non-chrétien. Je dirais, bien que ça n'a peut-être pas de valeur historique, mais juste à titre d'amusement, que, en ce sens, paganus est un équivalent chrétien reporté du terme bohème sur les non-chrétiens. Et en ce sens, alors c'est à ça que je veux en venir, le paganisme, je dirais, n'est pas un problème juif. Le paganisme est un problème chrétien. Et étant donné, d'abord historiquement, la connaissance du monde du début du christianisme, et étant donné les adversaires en présence, l'Égypte étant à ce moment-là finie, il s'agissait seulement, bien sûr, de l'antiquité grecque et romaine. Et on a affaire là à un paradoxe, un des paradigmes juifs du paganisme, je veux dire un des équivalents du paganisme, ou un des adversaires, a été l'épicurisme. Et là, il y a quelque chose de très curieux, vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est que le judaïsme a repris l'opposition païenne, c'est-à-dire celle d'une magie d'État, contre la morale d'Épicure, et la cosmogonie d'Épicure était justement une cosmogonie, si je peux dire, déthéologisante, c'est-à-dire une cosmogonie, disons, bien que le terme soit très, très court, chargé de malentendus, une cosmogonie matérialiste. La preuve que l'épicurisme est censuré par la religion païenne, c'est la façon dont le poème de Lucrèce, le De Rerum Natura, a été traité par la Rome d'Auguste. Le sort de Virgile par rapport opposé au sort de Lucrèce montre très bien que l'idéologie d'État, la religion d'État, rejetait l'épicurisme comme anti-paganisme. Et ce que faisait Lucrèce, c'était justement de rejeter les malheurs qu'il imputait à la religio, au sens romain, c'est-à-dire à ce qui paraît, du point de vue moderne et chrétien, superstition. Et de même, plus tard, le judaïsme a repris et prend à son compte la condamnation chrétienne du paganisme. Or, il me semble que le terme de païen ou de paganisme, tel qu'il est employé aujourd'hui, c'est-à-dire surtout en couple avec monothéisme, comporte une très grande ambiguïté, et par là, il cache des intérêts, des stratégies et des enjeux. C'est que dans l'opposition paganisme-monothéisme, dans la plupart des discours que je connais, monothéisme en fait égale christianisme. Et c'est très peu des positions, je dirais, spécifiquement juives. Et c'est pourquoi je dirais, encore une fois, le paganisme me semble un problème chrétien. Alors, pourquoi le judaïsme le reprend-il à son compte ? Est-ce qu'il voit bien ce qu'il fait en se situant dans le même paradigme que le christianisme, c'est-à-dire en acceptant de s'englober dans quelque chose qu'on appelle monothéisme et qui engloberait les religions du livre ? Est-ce qu'il n'y a pas là le danger de garder, je dirais indiscernablement, une notion qui est une des plus anti-juives qui soit, c'est-à-dire la notion de judéo-christianisme ? Et bref, poser le problème en termes juifs, mis à part les moments où le paganisme grec a effectivement menacé le judaïsme, est-ce que ce n'est pas se tromper d'enjeu et de stratégie ? Est-ce qu'il n'y a pas à voir spécifiquement aujourd'hui le paganisme à partir d'une position historiquement juive ?
Bien. Si vous permettez.
Avant que de répondre, monsieur Lechely, je voudrais signaler que la définition du paganisme que vous avez donnée, et qui est donc tirée de Robert, il y a une définition plus complète dans l'Encyclopédia Universalis, volume 19, par 1436-1437, qui, dans la première partie, donne une définition plus élaborée, à peu près équivalente de celle que vous avez citée, à savoir c'est essentiellement une définition chrétienne. Là, je dis d'ailleurs quelque chose d'extrêmement intéressant, que, par extension, les théologiens chrétiens ont réputé païennes toutes les formes religieuses qui ne sont ni juives ni chrétiennes. Il y a hésitation pour l'islam, troisième religion du livre, le Moyen-Âge, parfois traité de païen musulman, donc pour la communauté chrétienne. Et alors ensuite, il y a une deuxième définition qui élargit. Certains phénoménologues des religions ont essayé de définir le paganisme avec d'autres critères que ceux de l'histoire ou de la géographie. Et bien entendu, ils ont retiré du mot toute pointe polémique. Selon eux, le paganisme est un mode d'appréhension du sacré ou du divin à travers des médiations purement naturelles, celles de la nature matérielle, de la nature vivante ou la nature psychologique de l'homme, représentation des dieux sous forme cosmique, végétale, animale, humaine. Et que là, on rejoint davantage peut-être ce qui serait un point de vue de la vie.
Eh bien, juste un petit complément. Je voulais juste ajouter cette petite note pour aller dans le sens que païen est un terme tellement chrétien et tellement polémique qu'au Moyen-Âge, les chrétiens ont appliqué le terme païen aux juifs, en les mêlant d'ailleurs aux musulmans.
Bien, je voudrais d'ailleurs, pour ma part, me brancher directement sur votre intervention précédente en ajoutant d'abord un petit élément que nous nous sommes dit en même temps. D'ailleurs, il me semble que pour l'hébreu, le mot que traduirait païen ne serait pas tellement goïm. Goïm, étymologiquement, ça signifie les nations, qu'elles soient païennes ou pas, mais plutôt amaret. Et avec énormément ensuite de nuances, le amaret qui adopterait Avodazara ou Avodatelilim ou Apikorsiut, mais je reviens surtout là-dessus. Bien que je ne partage pas votre manière d'expliquer et cette situation du juif et du païen du même côté face à l'épicurien, je partage votre analyse, pour d'autres raisons, que je voudrais essayer d'expliquer. Et ça peut paraître effectivement paradoxal. Ce que, disons, la confrontation entre le judaïsme l'épicurisme a été au niveau du Talmud. Donc, ce que le talmudiste va diagnostiquer chez l'épicurien, c'est l'envahissement de l'impersonnel dans la vie spirituelle de l'homme et dans la vie intellectuelle. Et d'ailleurs, vous avez indiqué par un autre terme que l'épicurisme a une vision matérialiste. Du monde, je dirais, à la manière du talmudiste, matérialiste, ça n'aurait pas gêné le talmudiste tellement. Mais si la matérialité est le véhicule du quelqu'un, mais l'impersonnel absolu. Et c'est pourquoi le talmudiste ne s'est pas opposé au stoïcien, mais parce que le stoïcien est beaucoup plus humaniste dans le sens du fondement de la dignité de la personne sujet, mais à l'épicurien, dont il félicitait l'acuité de l'intelligence et la lucidité de l'intelligence, mais qu'il dénonçait comme étant celui qui risquait de faire envahir la conscience humaine de l'impersonnel, donc de l'obscurité. Et d'ailleurs, le conflit culturel, autant de la Judée et de la Grèce, n'était pas du tout avec les stoïciens, mais avec les épicuriens. Ce qui est frappant, mais là il faudrait demander l'avis d'un spécialiste, c'est qu'il me semble que dans le christianisme c'est un peu différent. C'est que le chrétien était beaucoup plus inquiet du stoïcien que de l'épicurien. Malgré tout, nous étions du même côté. Mais qu'est-ce qu'il y avait en jeu ? Là, je vais essayer de dire ce paradoxe apparent de la manière la plus claire possible pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est que, d'une certaine manière, effectivement, les païens, une fois élucidés les faux sens du mot paganisme et de leur expérience, et les hébreux sont du même côté face à une vision du monde où il n'y aurait que l'impersonnel. Entre païens et hébreux, il y a un problème de phénoménologie, un problème de conception de l'éthique, de la morale, un problème de l'interdiction, de la divinisation de la personne, parce que cela mène au totalitarisme, parce que cela mène à ce qui s'est passé dans l'Égypte des pharaons, etc. Il est bien évident que, et les versets des prophètes en font foi, nous en avons cité beaucoup pendant toutes les études de cette semaine, rappelez-vous surtout, si vous voulez, du texte du Raphaïm de Volhynien que nous avons étudié jeudi soir, lorsque par exemple les prophètes disent « Car mon nom est glorifié du levant jusqu'au couchant à travers les nations » et à travers quelle liturgie ? Bien sûr, les liturgies païennes. Hein ? Et que donc hébreux et païens seraient paradoxalement du même côté face à l'épicurien qui lui a une vision impersonnaliste, que je ne sais pas comment dire, impersonnelle du monde, c'est-à-dire en fond même à la conscience tragique. Je voudrais donner deux points pour conclure, une analogie, un problème analogue qui m'a frappé au temps de mes études à Paris, et d'autre part, vous donnez de nouveau là une citation du Talmud qui nous a servi un peu de filigrane dans ses analyses. Et voyez comme il est important que nous rencontrions le plus souvent possible pour recoder nos vocabulaires, nos perspectives, nos analyses. Ce que vous avez un peu dirigé comme une accusation vis-à-vis du judaïsme, je le reprends à mon compte comme un caractère positif du débat culturel dont nous parlons aujourd'hui. Et par exemple, cette citation du Talmud, et je reviendrai aux deux points suivants, que j'ai faite au moins deux fois dans les cours du matin, et où le Talmud dit « Si tu vois un idolâtre prier son idole, ne te moque pas de lui, parce que c'est ton Dieu qu'il croit prier, mais casse l'idole. » Voilà notre problème. Mais si l'Apicoros vient et dit « Il n'y a rien derrière, il n'y a personne derrière », vous reverrez le païen et le juif du même côté. Et s'il y a le chrétien avec, pourquoi pas ? Mais rien n'empêche notre débat théologique avec le chrétien, il est considérable. Okay ? Donc il y a un peu de perspective par rapport à ce problème. Voilà à quoi cela m'a fait penser par analogie, vous me direz d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Lorsque j'étais un étudiant de Lévi-Strauss, j'ai assisté une fois à un débat entre Lévi-Strauss en tant que structuraliste et un existentialiste en tant qu'humaniste. Vous connaissiez, vous vous rappelez de ce débat entre l'existentialisme et le structuraliste, et en tant que juif, j'étais du côté cependant de l'existentialiste. Parce que l'existentialiste, et bien que ce soit très différent des perspectives hébraïques, l'existentialiste quand même a comme valeur ultime le fondement de la dignité de la personne humaine en tant que quelqu'un, alors que le structuraliste évacue cela complètement et de façon beaucoup plus totale et beaucoup plus énergique qu'Épicure peut-être lui-même. Voilà un exemple. Et que, d'autre part, je crois que ce qu'il faudrait citer, et mettre en forme d'ailleurs, et c'est la définition que le Talmud donne du mot philosophe. Pour ceux qui ont déjà suivi cette étude, je m'excuse, mais enfin, comme dit le Talmud, il vaut mieux 100 une fois que 100 fois. Il y a deux fois dans le Talmud
En particulier, le mot philosophe qui est cité, mais deux fois commenté par Rashi. D'abord, dans la Maseret Shabbat, le Perek de Kol Kitvei HaKodesh, où il s'agit du canon biblique. Que sont les livres révélés? Que doit-on considérer comme livre révélé? Ça, c'est le traité de Shabbat. Et là, Rashi commente le mot philosophe par le mot hébreu min, qui signifie hérétique. À la limite, dans le sens de épicurien. Épicurien, encore une fois, n'a pas le sens dans notre vocabulaire ici, de jouisseur, mais de cette vision d'Épicure, de Lucrèce, du monde, après tout, peut-être, pourrait-on dire, structuraliste avant la lettre, mais prise au sérieux. Et, un autre traité, le traité de l'idolâtrie, Maseret Avodah Zarah, Rashi commente le mot philosophe par Chachme Umot Haolam, les sages des nations. Apparemment, il y a un paradoxe. Et Tosfot, qui est l'école des disciples de Rashi, met en compétition ces deux Rashi. Rashi sur Shabbat et Rashi sur Avodah Zarah. Apparemment, Rashi se serait contredit. L'explication est finalement très simple. C'est que le philosophe est celui qui nie le principe même d'une révélation de quelqu'un dans l'expérience religieuse. Lorsqu'il nie la révélation faite aux Hébreux, il est appelé hérétique. Mais lorsqu'il nie la révélation telle que les païens l'ont formulée dans leur phénoménologie, le Talmud l'appelle sage des nations. Et il y a là apparemment un paradoxe, mais qui n'est pas du tout paradoxal. Il n'en reste pas moins que si le philosophe se met du côté de l'épicurien, très probablement, avec les prophètes, avec les Néviim, l'hébreu et les païens se retrouveraient, vu l'enjeu, du même côté, parce qu'ils parlent de quelque chose qu'ils comprennent en commun, bien qu'ils soient radicalement divisés des implications historiques, politiques et morales et éthiques de leur expérience religieuse. Peut-être nous pourrions conclure là, et j'ai donc l'occasion de remercier tous ceux qui ont participé à ce colloque, et je vous souhaite rendez-vous au prochain. Nous choisirons ensemble les thèmes qui nous paraîtront les mieux appropriés à la suite du débat.
J'ai trouvé ça éteint.